Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, je suis Patrick Béja et nous sommes en novembre 2019, c'est la fin de l'année qui approche avec l'hiver qui arrive, ce qui veut dire que je suis malade. Voilà, super, bravo Patrick, mais l'émission doit quand même continuer évidemment et un épisode sympathique où on va vous parler de reconnaissance faciale et de procès aux États-Unis contre les institutions fédérales qui utiliseraient des reconnaissances d'une technologie de surveillance. Bref, on va vous expliquer tout ça, les tenants et les aboutissants. On a aussi dans les news et rumeurs les véhicules autonomes qui arrivent à Paris bientôt, le Shadow qui améliore son offre. On a Twitter qui améliore son produit et a encore changé sa politique sur les publicités politiques, justement, et plein d'autres petites choses. Et pour m'accompagner dans cette aventure numérique, j'ai un Cédric Ingrand qui n'a pas son bon micro habituel. Comment ça va, Cédric ?
Ouais, je suis extrêmement frustré. Moi, j'ai deux fétiches dans la vie, que sont les bagages et les micros. J'ai beaucoup trop de micros chez moi, partout. Enfin, j'en utilise évidemment au bureau. Enfin, bref, bon. On a tous nos petites manies, nos fétiches. Et donc, quand j'arrive pas à faire marcher le micro que j'avais décidé d'utiliser pour le podcast de Patrick, ben, je suis de très mauvaise humeur. Et quand je vois l'actu qui se profile devant nous, ça va pas s'arranger. Disons-le. Mais sinon, ça va. J'ai un vieux fond de rhume, mais ça, c'est le cas de tout le monde ici à Paris, parce qu'on n'a pas la froidure qui règne dans ton grand nord, c'est ce que j'ai appris en épousonne canadienne, c'est que au moins le grand froid d'ordinaire ça tue les microbes. Oui. Et toi t'es allé à Los Angeles, donc forcément
c'est peut-être mon problème, c'est que même dans le grand nord, quand tu as des enfants qui vont à la crèche, là même si le nombre, tu vois, tout de suite ils te ramènent tous les trucs. Donc, je pense que c'est plutôt ça.
Il devient un concentrateur à germes, mobile en plus. Tout à fait, ouais, c'est merveilleux. Alors d'abord, il est partagé entre eux. Non, c'est une grande civilisation du partage de microbes, les enfants.
Et comme ils sont tellement mignons, on leur fait des bisous et ils ont de la bon, bref, partout sur le visage. Et donc, voilà. Et c'est ce qui se passe.
Au-delà de un enfant, il devrait y avoir un panneau biohazard sur ta maison. pour toutes sortes de raisons. Mais toi, t'en as qu'un pour l'instant, donc tu peux pas savoir.
Ouais. Bah écoute, j'apprends. Mais voilà. Avant de se lancer dans les sujets tech, je voudrais quand même remercier ceux qui soutiennent l'émission, qui lui permettent d'exister, et notamment Manéa Castet, Virtanas, Lirsch, Baptiste Tévelin, David Perruchou, Prisme X Ojembe, Popling, Le John et Anthony Magnin. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui forment la communauté des Patriotes, formidables, vaillants, merveilleux auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission financièrement. Je suis éternellement reconnaissant de votre soutien. Et du coup, c'est grâce à eux que je peux vous amener ce petit résumé sur ce procès de... Alors, on va faire un concours d'acronymes. Le ACLU fait un procès au DOJ, FBI et DEA. Bon, quatre en une phrase, c'est pas mal. De quoi s'agit-il ? Le ACLU, c'est une association, organisme américain qui défend les libertés des citoyens américains, qui a fait un procès ou qui a lancé un procès contre donc ces trois organismes fédéraux américains, le Department of Justice, donc le ministère de la Justice en fait, le FBI que tout le monde connaît, le DEA, qui est le Drug Enforcement Administration, je crois, ceux qui font la guerre à la drogue.
Agency, je crois que c'est Agency, mais c'est pareil. Hein,
oui, voilà.
Mais tous les gens ont vu des séries télé, hein, ils savent ce que c'est que le FBI et le DEA. Hein,
exactement.
S'ils ont regardé Narcos, ils sont
très très... C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est les gens de Narcos, c'est eux. Et donc, ce que dit... Le ACLU, c'est American Civil Liberties Union, ou un truc comme ça ?
Absolument.
Bon, je pense qu'on n'est pas loin. Voilà, merci. Tu vois, ça aussi, je connais parce que je lis beaucoup d'articles sur les États-Unis. Alors, c'est sur un sujet qui est évoqué régulièrement dans les pages des magazines tech ces derniers temps, c'est-à-dire le sujet de la surveillance et plus spécifiquement de la surveillance faciale, de la reconnaissance faciale, reconnaissance de visage, qui est une technologie qui fait effectivement beaucoup de bruit ces derniers temps. dernier temps. Alors, que dit le ACLU? C'est un procès qui est relativement vaste et qui n'est pas très très précis, j'ai l'impression. Alors j'ai lu les rapports sur le procès et pas les documents légaux eux-mêmes, mais je pense qu'on aurait eu des précisions s'il y en avait. En gros, ce qu'ils disent, c'est que ces agences fédérales ont implémenté secrètement un système de surveillance nationale qui met en péril les libertés des citoyens américains. Et ils disent que ces systèmes, parce qu'il y en a plusieurs, sont d'une ampleur sans précédent et que ça menace les valeurs constitutionnelles du pays et du gouvernement. Là où c'est un petit peu moins précis, c'est que, bon, d'une part, ils parlent de sujets dont on sait qu'ils sont utilisés, comme la reconnaissance faciale. Ils évoquent aussi des choses qui sont moins connues, qui sont, par exemple, la reconnaissance vocale, qui est bien sûr très connue dans le cadre de l'utilisation... de l'utilisation personnelle des appareils technologiques, mais moins dans le cadre de la surveillance des organismes et des agences fédérales. Donc, ils disent qu'il y a cette technologie qui est utilisée dans ce cadre-là aussi. Et encore un petit peu moins connue, on en avait parlé, je crois, dans l'émission il y a quelque temps, c'est la reconnaissance d'allure de marche, le gait recognition.
Ouais, de la démarche.
Voilà.
De la démarche, en fait.
Et il se trouve, j'imagine que beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais il se trouve que la démarche est suffisamment différente pour chaque personne dans le monde pour qu'on puisse la reconnaître avec un certain niveau de pertinence et qu'on puisse identifier une personne par sa démarche, tout simplement. Donc, voilà ce que dit le ACLU, c'est que le gouvernement et ces agences-là ont implémenté des technologies de surveillance qui couvrent tout ça. Alors, ce qu'on sait, et d'ailleurs ils ont demandé au gouvernement des rapports et des détails sur ces différentes technologies et la manière dont elles sont implémentées. Ce qu'on sait, c'est que le FBI a effectivement un système qui s'appelle Next Generation Identification System, donc le système d'identification de prochaine génération, qui permet aux agents fédéraux et locaux d'envoyer une photo de quelqu'un pour qu'il soit identifié sur la base de données générale fédérale des criminels. Alors ça, c'est 30 millions de photos, j'imagine que c'est 30 millions d'individus qui sont identifiés, ça fait beaucoup, hein, 30 millions quand même, qui sont identifiés dans cette base de données. Et donc, on peut, dans un sens, envoyer une photo et dire, est-ce que cette personne et existe dans votre base de données de criminels. Bon, ça, je pense que c'est encore relativement normal comme utilisation. Il y a également une base de données du FBI qui est identifiée comme Facial Analysis Comparison and Evaluation. Donc, c'est un acronyme qui donne FACE. Pardon, c'est très malin. Mais là, ce n'est pas 30 millions de photos, c'est 640 millions de photos. Donc oui, d'ailleurs, peut-être que sur les 30 millions, je ne suis pas certain que ça soit 30 millions de personnes. C'est peut-être 30 millions de photos sur un moins grand nombre de personnes. Là, je pense qu'il est à peu près certain que sur les 640 millions de photos, ce n'est pas 640 millions de personnes, mais ça regroupe des photos, notamment les photos au niveau de l'État, de permis de conduire, etc., etc. Et cette information a été révélée en juin par le Government Accountability Office, donc le bureau de accountability le mot en français m'échappe. L'idée que
ce serait l'équivalent de notre Cour des comptes, en fait.
Voilà, un petit peu.
Parce que d'ordinaire, c'est l'espèce de bureau vérificateur des politiques publiques américaines.
Voilà.
Mais alors, sur les sur les 640 millions, moi, je ne suis pas si définitif que ça, parce que si tu mets bout à bout toute la population américaine, c'est quoi, 360, 380 millions d'Américains, plus, en gros, tous les gens dont l'administration américaine a, pour une raison ou pour une autre, la photo, c'est-à-dire
les voyageurs,
tous les détenteurs
peut-être.
De passeport qui rentrent ou qui sortent, les voyageurs, les détenteurs de visa, etc., etc., on peut arriver à ça, hein, c'est pas délirant.
Et les 30 possible,
ouais. millions, je pense que c'est tous les gens qui sont retrouvés de face à un appareil photo de la police, pour une raison ou pour une autre, soit qu'ils aient été condamné, emprisonné, soit même juste arrêté. Tu sais, on prend ta photo très vite là-bas. Donc, ouais. Donc de fait, c'est une jolie base.
Donc, sur cette deuxième base de 640 millions de photos, il y a eu 390 000 requêtes locales et fédérales et au niveau de l'État depuis 2011. Donc voilà, 390 000 par rapport à 640 millions, ça peut paraître un petit peu plus léger, mais c'est quand même 390 000 requêtes en 8 ans. Ceci dit, il y a quand même des mesures à différents niveaux du pays qui sont en train de limiter ce qu'on peut faire avec ce type de technologie. Il y a une mesure, une loi qui a été présentée au Parlement américain, qui n'a pas encore été votée, mais qui a été présentée au Parlement par deux Congress people, qui limiterait l'utilisation dans les lieux publics, entre autres. Et il y a également des villes américaines, notamment San Francisco et d'autres qui ont suivi la chose, qui ont décidé de limiter l'utilisation, voire même de l'interdire pour les 3 prochaines années, parce que l'une des grandes peurs que provoque cette technologie, c'est qu'elle est considérée comme fiable, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Et différents systèmes donnent d'ailleurs des seuils de fiabilité qui sont relativement sévères, mais les utilisateurs ne sont pas obligés d'utiliser ces seuils. Il y a d'ailleurs un test intéressant qui a été fait, qui a soumis des photos de membres du Congrès américain, justement, à une base de données de 25 000 photos de personnes arrêtées par la police en utilisant le système Amazon Recognition, et 28 de ces membres du Congrès ont été, entre guillemets, reconnus dans cette base de données de criminels, reconnus de manière erronée, évidemment. Et l'autre élément qu'il faut noter, qui a été impliqué dans ce test, c'est que les personnes dont la peau a une couleur plus sombre, en fait, plus la peau est sombre, moins la fiabilité du système est grande. Et donc, c'est un problème, évidemment, de matériel disponible pour créer les algorithmes de reconnaissance. Il y a moins de personnes basanées ou noires dans les photos disponibles pour entraîner les algorithmes. Et il y a également un élément de contraste qui est moins bon sur les peaux plus foncées. Donc, ces problèmes font que différents pays, différentes villes, et maintenant peut-être à des niveaux plus élevés, les autorités sont en train de dire « Oula, alors, on se calme, on va attendre encore un petit peu, peut-être que la technologie sera utilisable dans quelques années, mais pour le moment, mettons un petit peu le holà. » Alors, ça ne veut pas dire que la technologie n'est pas utilisable du tout, mais ça veut dire qu'il faut savoir ce qu'on obtient avec ce type de recherche et ce type de, d'outils. Alors,
ouais, en fait, c'est un énorme débat, hein, parce qu'évidemment, la reconnaissance faciale, c'est aussi celle qui te permet de déverrouiller ton smartphone, et jusque-là, il y a assez peu d'objections. Le problème de ce moyen de vérification biométrique-là par rapport à d'autres choses, par exemple à la prise d'empreintes digitales, c'est quand on te demande de donner tes empreintes digitales, tu le sais. Il y a pas, tu vois ce que je veux dire. On effectue un contrôle sur toi à un moment où voilà, tu sais qu'on est en train de te contrôler. Alors que là, évidemment, la plainte de l'ACLU, elle concerne pas des usages particuliers et ils se plaignent juste du fait qu'ils ont fait des demandes d'information, qu'ils ont un truc encadré aux États-Unis qu'on n'a pas chez nous, hein, ce qu'on appelle le Freedom of Information Act, qui permet quand tu es par exemple journaliste de faire une demande à l'administration en disant donnez-moi tous les documents que vous avez sur telle ou telle initiative, telle ou telle activité, etc. Eux, ils ont ça, ils ont fait des demandes qui pour l'ensemble, se sont heurtés un peu à des murs, et c'est pour ça qu'ils lancent ce procès. Mais évidemment, la plainte, elle est assez creuse en termes d'usage. Ils expliquent toutes les choses que le FBI a à sa disposition, sans détailler les usages qu'ils voudraient ou pourraient en faire. Il y en a qui sont probablement difficilement opposables. C'est-à-dire, par exemple, dire on a une photo de vidéosurveillance de quelqu'un à un endroit où a été commis un crime, on voudrait pouvoir passer ça dans le vérifier par rapport à la base de données de photos de personnes arrêtées ou condamnées qu'on a déjà. Ça, jusque-là, il n'y a pas grosse discussion. Évidemment, la peur, c'est que, étant donné que tu ne peux pas savoir quand cette chose est utilisée, et que tout à coup, tu as des machines extrêmement puissantes pour utiliser ce genre de choses, bah, tu pourrais tenter de le faire à très grande échelle. Tu peux dire, j'ai branché des systèmes de vidéosurveillance de lieux publics majeurs sur une base qui va me faire des alertes en temps réel en disant, tiens, c'est peut-être lui, tiens, etc., etc. Avec, évidemment aussi, tu l'as dit, les problèmes de précision qui se cachent derrière. Pour moi, ces technologies-là, elles fonctionnent quand tu les utilises sur de toutes petites bases. Exemple, moi, pour rentrer au bureau le matin, dans mon badge, il y a une petite puce RFID dans laquelle il y a ma photo. Et d'ailleurs, d'autres moyens biométriques, comme mes empreintes, ça me permet d'accéder à certains trucs ici. Par exemple, pour accéder au plateau, à DF1, il faut que tu donnes ton empreinte à un moment.
Tu nous dis que c'est pour accéder au plateau, mais on se doute bien qu'en réalité, il y a une sorte de caverne secrète de TF1 où seules sont acceptées les personnes les plus hautement accrédité, où vous développez des projets totalement secrets, n'est-ce pas ?
Mais bien sûr, oui, la fameuse pièce secrète où avec tous les autres médias, on se met tous d'accord sur toutes les choses qui ne te font pas parler. C'est au deuxième sous-sol ici, hein, tout ça, on est très ouvert là-dessus. Non, je présente bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la façon dont fonctionne le système, c'est que mes empreintes, elles sont à l'intérieur de mon badge, dans la puce. Elles ne sont pas ailleurs. Si je perds, quand je perds mon badge, parce que ça m'arrive une fois de temps en temps, eh ben, il faut que j'aille reprendre mes empreintes pour qu'elles soient stockées à l'intérieur. C'est-à-dire que là, tout à coup, on est face à un système sécurisé, mais qui est aussi sécurisant pour moi, parce que je sais que ces données-là sortiront pas, en l'occurrence, de mon badge.
Les données sont, j'imagine, bien chiffrées sur le badge, donc même si quelqu'un le trouve, il pourra pas en faire grand-chose. Et c'est la même chose sur les appareils que tu évoquais tout à l'heure, pour la reconnaissance faciale, la reconnaissance des empreintes numériques, digitales. Oui, empreintes numériques, ça ferait... Non, surtout pas. Sur les téléphones ou les appareils technologiques de ce type-là, là aussi, c'est chiffré sur l'appareil, donc ça à moins qu'il y ait une faille c'est de sécurité,
fait, tu en restes physiquement maître.
C'est ça.
Après, il y a des choses qui peuvent être faites pour te simplifier la vie. Je voyais ça sur le dernier assistant vocal de Google, le Nest Hub Max, qui a un écran et une caméra. Et qui fait une chose qui est intéressante, parce qu'il donnait qu'il y a un grand écran, on imagine qu'on va le mettre dans une pièce commune de la maison. Vu que le but est d'arriver à te donner des informations et des conseils personnalisés, bah, ils ont bien compris que ça pouvait concerner plusieurs personnes dans la maison. Toi, la personne avec qui tu vis, pourquoi pas un de tes enfants majeurs, mineurs, etc. Du coup, ils font de la reconnaissance faciale. Tu passes devant, t'as même pas besoin de le demander, tu passes devant et là on te dit « Bonjour Cédric, votre prochain rendez-vous, il est à 9h20 et d'ailleurs, vu l'état du périphérique, il serait temps d'y aller. » Ça, c'est très bien. Non, mais c'est, moi, j'ai pas de souci avec ça. Oui, sinon que pour l'activer, il va prendre ta photo au travers de ton smartphone pour être sûr qu'il... Sur le même mode que Face ID, c'est-à-dire que tu vas tourner ta tête dans tous les sens pour être sûr qu'on puisse pas juste activer le système avec juste une photo de toi devant l'objectif de la caméra. Là aussi... Bon, j'ai pas de souci avec ce problème-là.
Oui, maintenant, et puis comme tu dis, on en garde le contrôle. Donc c'est la chose intéressante. Et même pour les usages qu'on a évoqués par le gouvernement, comme tu le dis, c'est des choses qui sont difficilement critiquables. Opposable. Enfin, on peut les critiquer, mais d'une manière générale, je pense qu'ils sont acceptés. Maintenant, là où, comme tu le dis très bien, ça devient plus inquiétant, c'est quand on ne sait pas exactement ce qui se passe, et puis surtout, on ne sait pas quand ces technologies sont utilisées. Ce que enfin, semble
on sait pas
dire...
Quand, ni où, ni comment, ni dans quel but précis, parce que ça peut être... Moi, j'avais vu au Japon, c'était NEC, qui avait un système de reconnaissance faciale extrêmement impressionnant, qui sont en train d'installer sur tous les stades, les endroits qui vont accueillir les JO 2020. fin de, à Tokyo. Et eux, vraiment, le but, c'est d'arriver à avoir une base de données de photos de criminels et que le système puisse faire des alertes en temps réel. Mais c'est vrai que dans l'essentiel des cas, de toute façon, ce ne sont que des systèmes qui vont te mettre, en gros, une notification, tu vois, ou qui vont mettre... Certains mettent d'ailleurs une note à leur propre reconnaissance en disant « Je pense que c'est un tel, mais je ne suis sûr qu'il y a 90%.
C'est les seuils de fiabilité dont on parlait. Mais du coup, ce que dit le ACLU, est-ce que c'est... Je vais te poser la question directement. Est-ce qu'ils exagèrent, puisqu'on voit que les usages semblent relativement raisonnables, ou est-ce que c'est justifié leur procès?
La procédure, elle est parfaitement justifiée juste pour l'histoire de la demande d'information. En gros, leur truc, c'est de dire, attendez, nous, on demande des informations sur ce que vous êtes en train de faire et on est fondé à vous demander ces informations. Vous ne nous les donnez pas, donc on vous fait un procès. On voudrait savoir qu'est-ce que vous utilisez comme set de données, avec quel type de technologie et dans quel but précis et à quel moment, à quel endroit, etc. etc. C'est vrai que, je dis une bêtise, mais imaginons que quand tu arrives, voilà, tu descends de ton avion à Los Angeles, là, comme d'habitude, tu as un très long couloir, il fait toujours 800 mètres, hein, me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Et que dans ce couloir, tu vas avoir 3-4 caméras, il pourrait y avoir un système de reconnaissance faciale qui recherche, je sais pas, par exemple, des gens à qui l'entrée aux États-Unis a déjà été refusée. La question, c'est toujours l'endroit, la technologie, le dataset que tu utilises et le but poursuivi. Après, si tu mets la place du Trocadéro, des caméras qui vont vérifier en temps réel, qui vont essayer de comprendre, de détecter en temps réel l'identité de tous les gens qui passent à portée de la caméra avec un dataset complet de toutes les photos d'identité, des passeports et des cartes d'identité françaises, bah là on aurait plus tendance à dire non. Non, ça fait
ouais,
beaucoup,
c'est ça qui
parce
est...
que là on est en train d'essayer de te suivre à la trace, dans quel but précis, juste celui peut-être de pouvoir a posteriori retracer tes pas pour le jour où, enfin tu vois, un truc un peu à la NSA, c'est-à-dire on stocke tout, on essaie de tout stocker pour, a posteriori, pouvoir faire le post-mortem, l'autopsie de où tu étais, à quel moment, à quel endroit, avec qui tu as parlé, enfin voilà, bon, ça devient... Je pense que c'est ça, la dérive contre laquelle ils se battent, c'est typiquement ce genre de choses. C'est d'ailleurs ce qu'ils rappellent dans le document. Alors c'est drôle parce qu'ils mettent des pages et des pages en rappelant tous les trucs pas très recommandables que le FBI a fait dans son histoire, pour dire que voilà, il y a des précédents historiques pour que les G-men, comme on les appelle, ce soit mal conduit et en tout cas pas du tout dans l'intérêt du public, enfin en tout cas pas de tous les publics. Donc voilà, je pense que c'est normal qu'on ait ces débats-là. Maintenant, c'est vrai que je vois des gens qui disent qu'il faut absolument interdire complètement la reconnaissance faciale. Non, je suis pas d'accord.
On tirait pas jusque-là, oui. Je pense.
Ouais, on a arrêté des tueurs au marteau et moi j'étais chez Castorama ce week-end, on vend encore des marteaux, c'est une question d'usage.
ouais, non, mais c'est vrai que ce qui est préoccupant dans cette histoire, c'est le fait qu'on ne sache pas certaines choses ou qu'ils se soient vus opposer une fin de non-recevoir. Et évidemment, dans un monde post-Snowden, on ne peut pas simplement se contenter mais vous inquiétez pas, de toute façon, on l'utilise pour votre bien.
Tu peux si tu es japonais.
Les japonais sont particuliers.
Je n'imagine pas qu'ils l'utilisent dans des buts qui ne soient pas honorables. Voilà.
Et
mais c'est vrai
plus,
que quand tu es aux États-Unis, tu peux te poser ces questions-là.
D'autant plus, comme on l'a rappelé, que la fiabilité de ces systèmes est, d'une part, n'est pas totale, bon, même n'est pas suffisante, on dira, et encore plus que la fiabilité descend sur certaines catégories de personnes. Donc, c'est vrai que le signal d'alarme est bon à tirer maintenant, et en l'occurrence, il faut qu'on puisse savoir, qu'on puisse en savoir plus, ne serait-ce que pour se dire, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, ça il vaut mieux attendre encore un petit peu que la technologie soit plus fiable. Il y a d'ailleurs des gens qui ont utilisé ces technologies dans des cadres privés. On se souvient de l'histoire de Taylor Swift, je crois, qui avait utilisé ça dans ses concerts pour détecter des personnes qui étaient des stalkers de Taylor Swift.
Ouais,
donc, pouvoir...
Taylor Swift.
Voilà, dans des cadres privés comme ça, c'est peut-être un petit peu plus compréhensible. Mais en même temps, il y a d'autres artistes qui ont dit « Non, moi, je ne vais pas l'utiliser. » à cause de ces problèmes de fiabilité. Je dirais que dans l'ensemble, pour une fois, peut-être, à l'émergence de cette technologie, on est en train de se poser les bonnes questions au bon moment, c'est-à-dire au moment où on est en train de les implémenter, plutôt qu'après. Donc, au final, oui, c'est très positif, quoi, tout ça.
Oui, moi, c'est tout à fait positif qu'il y ait une discussion sur ces sujets-là, parce qu'ils sont importants pour la suite et parce que c'est vrai que les dérives sont absolument possibles. Voilà, donc bon, du coup, bah, moi je suis team ACLU sur ce que sur ce
cas. Je pense que ça c'est...
J'ai toujours été team ACLU.
Oui, je pense que c'est ça. C'est quand même difficile d'être anti. Bon, parfois ils ont tendance à être un petit peu, comment dire, pas violents, mais enfin, ils forcent un petit peu dans leurs activités. Mais bon, c'est un petit peu aussi nécessaire parfois. Dans tous les cas, voilà pour la conclusion. C'est important de savoir ce qui se passe à ces niveaux. Et c'est important parce que ça se passe dans tous les pays du monde, peut-être un petit peu plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais ça arrive partout. Donc, il faut être informé.
Et s'il pouvait y avoir un équivalent français du FOIA, du Freedom of Information Act, ce serait vraiment merveilleux. Bah, tout à coup, on pourrait envoyer des requêtes partout, tu vois, en disant, je sais pas, au ministère de l'Intérieur, à DCSI, tu peux leur demander des documents s'ils ont un intérêt pour le public. Alors, c'est vrai que ça... Enfin, ce serait intéressant, ça générerait plein de trucs intéressants, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, même si tout finit par sortir, sur l'usage que nous, on fait de cette technologie-là. Mmh.
Tu sais, c'est marrant, en parlant de transparence, il y a en Finlande une transparence totale sur tout ce que font tous les organismes publics, y compris les ministères, c'est-à-dire que tu peux demander les budgets des ministères, toutes les informations relatives à ce genre de choses, et tu peux même aller...
Chez nous, ils sont publics, les budgets des ministères. On a une loi de finances là-dessus, hein. on n'est pas dans le noir. Alors, tu veux dire que tu peux, en gros, tu peux demander les notes de frais, quoi.
C'est ça, exactement. C'est que ça va beaucoup plus loin. Tu peux savoir qui a dépensé quoi, pourquoi. Donc,
tu peux ouvrir le livre de compta, là, quand même, forcément.
Exactement. Et ça va encore plus loin parce que tu peux aller chercher les avis d'imposition de n'importe quel citoyen finlandais. Donc,
c'était le cas chez nous, hein, depuis. Tu pouvais aller lire les déclarations d'impôts de n'importe qui. Alors après,
ah oui,
ça a été restreint.
Ah, mais je savais pas.
Oui, bien sûr. Ça a été restreint à des choses locales, c'est-à-dire que tu pouvais aller lire celle de ton voisin dans ton hôtel des impôts. Je crois qu'il y a des restrictions maintenant, parce qu'évidemment, t'as quand même des peurs sur la vie privée. Mais normalement, ces choses-là sont pour partie, en tout cas, des données ouvertes. C'est un peu comme le cadastre. Tu peux savoir comment s'appelle le propriétaire de la maison à côté de chez toi. Mm-hmm. Mais évidemment, c'est pas destiné, à mon avis. Tu vois, voilà le genre de choses où on peut dire que le numérique, c'est génial, ça simplifie tout, etc. Voilà le genre de choses dont je suis pas sûr qu'il serait bon que ce soit compulsable en ligne. Mm-hmm. Voilà. Si tu veux vraiment savoir des choses sur, je sais pas, la fiche des impôts de ton maire, par exemple, c'est pas mal qu'il faille que tu te déplaces à l'hôtel des impôts pour ce genre de choses. Mais je pense que la législation a évolué là-dessus. Je sais pas dans quel sens, j'irai voir.
Bon, en tout cas, en Finlande, c'est le grand événement il y a quelques jours. Et donc, on a, comme d'ailleurs en France, je crois, la publication des personnes qui payent le plus d'impôts. Et puis ensuite, tous les employés vont aller consulter les trucs. Je crois que c'est consultable en ligne en Finlande. Mais bon, faudra confirmation. Mais bon, en même temps, la Finlande, c'est tellement plus petit.
C'est ça, vous êtes des gens du Nord, vous avez cette espèce d'exercice de la transparence radicale.
C'est ça,
ouais. Toute l'histoire, c'était en Suède, la ministre qui a été virée parce que c'était quoi l'histoire?
Elle avait payé des sneakers
des sneakers, mais je crois qu'elle rentrait chez elle en urgence et il n'y avait plus de lait en poudre pour son bébé et elle n'avait que sa carte de crédit professionnelle. Elle est passée à la pharmacie, elle a pris une boîte de lait à 12 balles. Enfin, tu vois, c'est le truc.
C'était ce genre de somme, oui, c'est ça.
Dans l'ensemble non-événement, eh ben non, elle a été virée quand même, ou alors parce que il y en a une autre, mais qui avait utilisé son téléphone mobile professionnel pour passer un appel personnel. Tu vois le degré de granularité, enfin c'est un truc de moine soldat là. C'est chez nous, évidemment, ça fait sourire dans l'ensemble.
Et c'est marrant parce que évidemment j'ai beaucoup pensé à ça. On dérive un petit peu du sujet, mais j'ai beaucoup pensé à ce genre de choses quand on est arrivé en Finlande et bien sûr on entend parler de toutes ces histoires et les gens se plaignent évidemment de la de l'attitude qu'on a en France vis-à-vis de ces problèmes. Et ce qui m'a marqué, c'est que bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas payer leurs impôts en France, en Finlande et dans les pays nordiques. Mais ce que je remarque, et c'est mon impression, c'est que en fait, on a un petit peu les politiques qu'on mérite. C'est-à-dire que évidemment, si eux, ils vont tricher à des niveaux qui nous semblent excessifs. Dans la population, on est quand même tous, et je vais m'inclure dans l'eau parce que je vais pas que pointer les doigts, mais on est tous en train de chercher à comment on peut faire sauter la contravention, comment on peut ne pas déclarer tel ou tel truc pour payer moins d'impôts, comment on peut, tu vois, c'est des magouilles un petit peu partout. Donc, c'est bien de pointer du doigt les hommes politiques et les femmes politiques qui se fourvoient dans ce genre d'attitude, mais je crois que au fond du fond, c'est peut-être plus un résultat de ce qu'on fait tous que vraiment, tu vois, c'est une culture générale dans le pays. Et oui, ça me paraît un petit peu hypocrite.
Oui, il ne faut pas que les Finlandais descendent au sud du Rhône, hein. C'est le sud de la Loire presque, hein. C'est-à-dire qu'ils seraient quand même étonnés. Après, on passe les frontières et ça devient la combination, tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Et on a dit qu'on parlait pas de la Corse.
Écoute, moi, je n'ai rien dit. Je suis totalement neutre.
Moi, je n'ai que des amis là-bas, j'aimerais que ça continue.
Voilà. Eh bien, écoute, en parlant d'amis, on va continuer dans l'émission en faisant une toute petite pause pour vous parler des amis du Patreon. Patreon, c'est bien sûr le système qui permet de financer l'émission pour les auditeurs qui l'apprécient. Si vous écoutez depuis un moment, si vous aimez ce qu'on fait, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et en quelques minutes à peine, mettre de l'argent plutôt que si vous avez de la magouille. Si vous êtes en train de vous dire « Ah, là, je vais réussir à faire sauter cette contravention ou à payer un petit peu moins d'impôts en ne déclarant pas tel ou tel truc. » Bon, il faudrait pas. Mais si c'est déjà fait, vous avez un petit peu d'argent en bonus, eh bien, vous pourriez financer le rendez-vous tech, par exemple. Moi, je dis ça, oui, c'est une suggestion.
Votre 13e mois arrive, le moment est rêvé. Peut-être aussi avez-vous un peu d'argent à blanchir. Je veux dire, c'est arrivé à tout le monde. C'est pas... voilà.
Moi, je prends l'argent de tous les citoyens du monde qui sont prêts à me le donner. Donc, patreon.com/... Bon, on parlait de narcos tout à l'heure, on parle de blanchiment d'argent maintenant. Je risque de recevoir un coup de fil de mes autorités locales, moi. Mais bon... Il n'empêche, quand vous êtes inscrit à ce système, et ben vous avez plein de bonus sympathiques, comme par exemple les épisodes entièrement sans pub et même sans cette petite partie où on vous parle du Patreon, on vous explique ce que c'est à chaque épisode, puisque ben, vous savez ce que c'est, vous êtes patriote. Et en plus, vous avez des contenus bonus comme les petits éditos que je fais régulièrement, des accès à des contenus privés, même au premier niveau, à 1$ par épisode, vous avez accès à ces choses-là, et puis il y a d'autres niveaux ensuite. Donc, si vous appréciez l'émission, je vous recommande très sincèrement d'aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/rdvtech. C'est rapide, facile, et puis c'est la chose qui fait que l'émission peut exister telle qu'elle est. Donc je vous remercie infiniment de penser peut-être à devenir patriote, merveilleux patriote du rendez-vous tech.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on va continuer avec les news et les rumeurs. La première news, c'est que la RATP, vous savez ce que ça veut dire, RATP, on est encore dans les acronymes. Cédric, toi, tu sais, RATP, bien sûr.
Ah bah oui, Régie Autonome des Transports Parisiens, ça date pas d'hier.
Voilà, et dans Régie Autonome des Transports Parisiens,
les jours de grève, on dit RATP, ça veut dire rentre avec tes pieds.
Exactement. On connaît bien les Parisiens, tout à fait. Mais dans Régie Autonome des Transports Parisiens, il y a Autonome. Et dans Autonome, on comprend aussi... voiture, véhicule autonome, pas mal. Hein, comme,
Je ne pense pas qu'ils avaient pensé à cet autonome-là quand ils ont créé la RATP, mais je te laisse continuer.
Eh bien, il se trouve que dès 2020, la RATP va faire des tests de véhicules autonomes dans Paris. Alors évidemment, ce n'est pas eux qui développent la technologie, hein, c'est des technologies qui nécessitent une expertise vraiment très spécifique. Ils font un partenariat avec une société qui a été rachetée par Intel en 2017, qui s'appelle Mobileye, et qui va fournir les technologies de conduite autonome aux véhicules de la RATP. Alors, on parle de premiers tests. Il y a déjà eu quelques petits tests qui n'étaient pas sur des lignes commerciales, mais là, ça serait des tests sur des lignes, par exemple, d'accès à des hôpitaux, ce genre de choses, qui seront implémentées en 2020. Donc, c'est encore un exemple du fait que les tests de voitures autonomes et de véhicules autonomes commencent à arriver. Et là, on parle de Paris. Donc, souvent, on en parle avec des villes comme, enfin, des villes américaines qui sont beaucoup plus simples à naviguer pour des ordinateurs. On parle de Phoenix en Arizona, etc. Là, c'est Paris. Donc, je suis très curieux de voir comment ça va marcher et à quel point ça va marcher. Ça sera des trajets courts, j'imagine quand même, mais ça pourrait être un développement très intéressant pour la RATP.
Ouais, surtout que forcément, c'est quand même à Paris qu'on a le boss level de la conduite autonome, c'est-à-dire la place de l'Étoile.
C'est ça. Bon, je pense pas qu'ils vont l'envoyer sur la place de l'Étoile tout de suite non plus. Hein, c'est ridicule.
Si on sait qu'une fois, le jour où une voiture autonome arrivera, arriver par l'avenue Foch et à descendre l'avenue des Champs-Élysées, là, on aura fait un grand pas. C'est pas tant sur la reconnaissance de son environnement, la puissance de calcul et tout. C'est que voilà le type même de choses où il faut que ton moteur logiciel de conduite ait non seulement de la connaissance, etc., mais de la personnalité. C'est-à-dire qu'en gros, si tu ne t'impose pas, tu n'avanceras jamais. Ouais. On est très loin des choses sur lesquelles ils testent, tu vois, quand ils lancent des flottes à Phoenix dans l'Arizona où il y a juste des feux rouges des lignes droites et des carrefours avec 4 stops. Où déjà là il faut se dire, alors est-ce que c'est mon tour, pas mon tour? Ok, c'est super, c'est un début, mais c'est-à-dire qu'en gros t'es au niveau nourrisson de là où il faudrait être, c'est-à-dire d'un conducteur qui a appris à conduire à Paris, à Marseille, à Naples ou au Caire, quoi.
C'est intéressant, c'est pour ça que le fait qu'il lance ses tests à Paris et vraiment dans la ville, quoi, ça va être une vraie étape dans la conduite autonome. Moi, pour être honnête, je pensais pas que ça arriverait à Paris là dans les deux années à venir, mais bon, clairement.
C'est intéressant parce que donc ce serait quoi? Ce serait des bus.
Alors, ça veut dire qu'il faut aussi
des petits bus. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'ils s'arrêtent, qu'ils ouvrent les portes, laissent monter les poussettes. Enfin, tu vois, il y a aussi des choses à faire sur l'interaction avec le public. C'est pas juste aller d'un point A à un point B. Donc c'est intéressant, vraiment.
J'imagine qu'au début,
on pourrait faire des vraies lignes de bus qui fonctionneraient toute la nuit.
Oui,
qui seraient pas juste les noctiliens. Hein, mais...
J'imagine qu'il y aura des conducteurs dans le bus aussi, dans un premier temps en tout cas, mais l'idée c'est qu'à terme, oui, il serait vraiment autonome. Donc. On n'en avait pas parlé la semaine dernière, mais la start-up française Blade, qui édite le service Shadow, dont on vous parle depuis quelques temps, a annoncé un changement de politique assez radical, ou pas vraiment de politique, mais un changement de leur grille tarifaire assez radical, avec des nouvelles offres. Alors, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Shadow, c'est le service de PC à distance, de streaming. Il vous offre non pas une série de jeux, comme d'autres services vont le faire bientôt, mais un PC, un vrai PC sous Windows, sur lequel vous pouvez installer ce que vous voulez, mettre ce que vous voulez, et vous avez donc l'image qui vous est envoyée, la vidéo qui vous est envoyée, et vous, avec la souris, le clavier ou la manette, vous pouvez envoyer les commandes au PC et c'est renvoyé vers vous en temps réel. Ça marche vraiment très bien. Moi, les tests que j'ai faits, j'en parlais, je crois, déjà la dernière fois. Les tests que j'ai faits à mon dernier passage à Paris étaient complètement bluffants. Alors, quand on a une fibre de bonne qualité, évidemment, mais il n'empêche, moi, j'avais beaucoup de mal à différencier la machine locale et la machine distante. Donc, c'est vraiment convaincant comme technologie. Le gros problème qu'ils avaient jusqu'à maintenant, c'était le tarif qui était élevé. On était à, on va dire, quelque chose comme 40-45 euros pour un petit peu moins si on prenait des abonnements plus longs, mais pour accéder au service. Là, ils ont réduit le tarif à, on va dire, 15 euros ou moins si on prend plus longtemps, 15 euros par mois pour avoir accès à notre PC en version basique. Pour ceux qui veulent une version plus puissante, avec notamment du ray tracing, on sera à, je crois, 25 ou 30 euros, quelque chose comme ça. Et ça sera disponible en février. Donc, ça continue à avancer pour le streaming, la technologie streaming en général. À noter que Stadia, donc le service de jeux vidéo en streaming de Google, a annoncé son line-up de lancement avec on va dire, qui est particulièrement famélique. Je dis depuis...
Pas beaucoup de jeux, hein, ce qui est un peu dommage pour ce genre de choses. Hein.
Bah, disons que pour moi, ça confirme une fois de plus ce que je dis depuis longtemps, c'est que c'est une bêta qu'ils lancent maintenant et le service ne sera vraiment opérationnel que dans quelques mois et quand leur offre, entre guillemets, d'accès gratuit sera disponible courant 2020. Et puis encore, puisqu'on parle de Google, je continue sur le fil avant qu'on discute de tout ça. Google a abandonné ou plutôt a open sourcé le projet Cardboard. Vous vous souvenez, c'était ce système de réalité virtuelle avec un petit casque en carton dans lequel on glissait le téléphone. Et après avoir abandonné leur système Daydream VR, ils abandonnent en quelque sorte le système Cardboard. Donc Google sort de la course de la réalité virtuelle, c'est un petit peu de la consolidation. Mais donc, est-ce que, je ne sais pas si tu as des remarques sur tout ça, y compris sur Shadow.
On va commencer par la fin, sur Cardboard, c'est chouette qu'ils le mettent en open source, mais ça signe quand même un truc, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ça, quoi. Enfin, si, il y a un marché, mais il est beaucoup plus restreint que ce qu'on aurait pu croire au début. C'est-à-dire qu'on, au début, tu vois, on nous le vendait. Moi, je me souviens encore de la conf Samsung il y a quoi, 3 ans, à Barcelone. Tout à coup, Mark Zuckerberg arrive pour dire, voilà, regardez toutes les choses qu'on va pouvoir faire en VR avec ce casque dans lequel vous allez coller votre smartphone. Ça, c'est mort. Il y a encore des casques et ça se vend. Je pense à ce qu'il y a sur PlayStation, qui est vachement bien, mais on est quand même sur un marché potentiel qui est beaucoup plus petit. Et depuis le début, on disait, OK, mais pour que ça marche, bon, il faut que les prix baissent, ça c'est fait, mais il faut aussi qu'il y ait vraiment des killer apps, c'est-à-dire qu'il y ait des choses dont tu puisses te dire, non, ça, clairement, je ne peux pas m'en passer. Voilà. Et
Ce que je pense, c'est que la manière dont... Enfin, ce que ça veut dire vraiment, c'est que ces expériences de réalité virtuelle au rabais, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'ont pas de simulation de vos mains, qui sont limitées dans leurs déplacements, eh ben, ces expériences-là n'apporte pas assez en termes de réalité virtuelle pour être intéressante. C'est normal, on essaye des choses et on est en train d'apprendre ça. Et les expériences qui sont plus immersives, elles, sont vraiment convaincantes. Donc, je ne sais pas si elles ont plus de succès, mais pour moi, c'est plus ça que l'idée de se dire que la VR dans son ensemble n'est pas, ne réussit pas son pari, quoi. Là, il est encore trop tôt pour dire ça, parce que les casques plus immersifs, eux, continuent à être intéressants, même si on n'est pas une adoption en public, quoi.
C'est ça. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne même de mieux en mieux, c'est de plus en plus convaincant, mais sur un public potentiel de plus en plus restreint. Et donc, c'est un vrai problème. Non, parce que tu as raison, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça que tout s'est fait jusque-là. Donc c'est pas très grave, sauf pour les sociétés qui avaient de gros espoirs. Mais donc, Google, si tu veux, ça va pas changer leur vie. Bon, ça fait partie des trucs, tu fais des choses, et puis ça marche, ça accroche pas. Mais c'est vrai que ce qu'on nous vend, entre guillemets, depuis quoi, 5 ans, 10 ans, même plus, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on attend toujours de voir. Et finalement, pendant ce temps-là, se développent des applications de réalité augmentée qui, elles, sont plus en phase avec des usages réels existants, tu vois, le truc sur IKEA te permet de prévisualiser où sera le canapé dans ta pièce. Là, ça, c'est des trucs, tout à coup, on comprend. Arriver à avoir en temps réel, à faire taguer ce que tu vois autour de toi au travers de l'écran de ton smartphone, super. En plus, t'as pas besoin, du coup, de te balader avec un casque qui fait que je vais pouvoir venir te faire les poches pendant que tu ne vois rien. Mais il y a ça aussi.
Justement,
en gros, des technologies qui te permettent de rester immergé dans le monde réel et pas de t'en détacher.
Bah, tu m'amènes une transition avec la discussion sur Apple. Je ne sais pas si tu voulais dire un truc sur Shadow ou si on parle
sur Shadow. Moi, j'aime beaucoup Shadow. Ça reste un truc de hardcore gamer, etc., qui est très intéressant, vraiment, vraiment bien fait. C'est une vraie jolie pépite technologique là pour le coup qu'on a en France. C'est impressionnant aussi la façon dont ça te permet. Mais ça, c'est le coup des machines virtuelles, de commencer une partie sur ton PC, de la continuer sur une autre machine, de regarder un truc sur la tablette, etc. Non, c'est vraiment la techno qu'il y a derrière est vraiment intéressante. Je pense que pour l'instant, de fait, ça reste un truc de hardcore gamer parce que la promesse de Shadow, c'est pas juste de dématérialiser le jeu et de voilà, c'est d'arriver à être sur une machine qui, au travers de la mise à jour du serveur, elle soit toujours à jour. Donc il y a une équation économique pour le joueur qui se dit bon, c'est cool, je vais pas avoir besoin de changer de carte graphique tous les 18 mois. Donc ça pour le coup, ça tient, même si c'est sur une population pour l'essentiel de joueurs PC. Mais c'est une vraie belle réussite, surtout qu'elle a réussi à fonctionner là où moi je me souviens, il y a quelques années, il y avait une boîte
Online Gaikai, il y en avait
Online.
Ah, ils étaient là trop tôt, quoi.
Ouais, ça, qui sont arrivés un peu trop tôt pour que ça accroche vraiment et peut-être pour avoir les technos parce qu'il restait un peu de lag. Mais t'as raison, hein, l'expérience Shadow, c'est que tu t'attends à ce qu'il y ait un lag, tu t'attends instinctivement à ce que ça marche moins bien que ton PC de jeu. Et en fait, quand ça se met à marcher aussi bien et que tout à coup, au bout de quelques minutes, t'as totalement oublié que t'es sur une machine virtuelle qui est juste dont on file les graphiques par le cloud, c'est impressionnant. Hein.
Alors, en février, cette nouvelle offre sera disponible et j'encourage tous les sceptiques à essayer pour 15 euros pendant un mois pour voir ce que ça donne, parce que je pense que vous serez convaincus. En même temps, à ce moment-là, peut-être que Stadia sera disponible un petit peu plus et donc vous pourrez tester sans avoir à débourser ce genre de technologie. Mais on revient à la question de la réalité augmentée, puisque le très prolifique Mark Gurman, qui a ses sources chez Apple depuis bien longtemps, nous apprend que Apple est en train de développer un nouveau capteur 3D, qui serait une évolution de celui qui permet le Face ID aujourd'hui, qui serait intégré à un iPad Pro au premier semestre 2020 et dans les iPhones de 2020 également avec la 5G. Donc ça, c'est pas très surprenant, mais il serait spécialisé dans la réalité augmentée, voire pourrait aider à la réalité virtuelle à terme, puisqu'ils auraient l'année suivante ou l'année d'après, donc on va dire entre 2022 et 2023 peut-être, 2021 et 2023, un casque de réalité augmentée. C'est encore une confirmation, une rumeur qui confirme le fait que Apple travaille dessus. Là où c'est intéressant, c'est qu'il comptait, il y a quelque temps, faire une présentation en 2019 et le sortir en 2020. Et ils ont décidé de décaler un petit peu la sortie pour que la technologie soit encore plus convaincante. Et ils le considèrent comme leur prochain gros push dans le domaine des wearables, de la technologie portée. Mmh. Et c'est donc le prochain produit qui va arriver. Donc, on parle effectivement de peut-être présentation 2021-2022 pour ce casque de réalité augmentée principalement, mais qui ferait aussi de la réalité virtuelle. Donc, et il y aurait l'année suivante, des lunettes qui feraient de la réalité augmentée. Donc, d'abord un casque et puis simplement des lunettes qui seraient beaucoup moins encombrantes.
T'imagines, on est en train de parler d'un truc à horizon 4 ans. Enfin, 4 ans, c'est le bout du monde, quoi. C'est fou parce que c'est là que tu te dis quand même, non mais attends, c'est Apple. C'est-à-dire que ils peuvent jeter tous les moyens qu'ils veulent dans la bataille pour arriver à faire bien et à faire plus vite que les autres, parce que t'as quand même toujours un avantage à celui qui sort ça en premier. Et là, on est en train de dire, c'est pour dans 4 ans. Et ils y travaillent depuis un certain temps déjà. Donc, soit c'est extrêmement compliqué, soit ils ont toujours ce petit défaut à avoir du mal à courir plusieurs lièvres en même temps, mais a priori non, ça ne va pas être le cas. Donc c'est vrai que voilà, quand Apple te dit, ou laisse dire qu'il va falloir 4 ans pour sortir un nouveau matériel, ça fait rêver quand même.
C'est intéressant d'ailleurs cette idée qui court plusieurs lièvres à la fois, parce que j'avoue que j'ai un petit peu plus de bugs que d'habitude sur mon iPad. Il semblerait que la prochaine version d'iPadOS corrige ces bugs-là, mais je pense que c'est une remarque que font beaucoup d'utilisateurs et de développeurs ces derniers temps. Les produits, les OS d'Apple sont un petit peu plus buggés qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Et je me rends compte que Apple fait vraiment tellement de choses en même temps. Alors, il y a plein de géants de la tech qui font plein de choses, Mais enfin, dans le nombre de domaines différents qu'ils sont en train de couvrir, j'ai pas fait une étude scientifique sur le sujet, mais j'ai l'impression qu'entre les médias, les matériels, les tablettes, les ordinateurs, portables, pas portables, les téléphones, les montres, les casques sur lesquels ils travaillent, les voitures, enfin, et je parle même pas de logiciels et de services et d'infrastructures cloud, ils font tellement de choses. C'est, à vrai dire, c'est même impressionnant qu'ils réussissent à tenir debout encore, mais j'ai l'impression que c'est arrivé petit à petit, graduellement, et c'est un édifice tellement énorme, Apple, aujourd'hui, dans les domaines qu'il couvre, que ça, c'est pas surprenant qu'il y ait des choses qui se passent un petit peu moins bien et qui doivent, qui nécessitent plus d'attention. J'espère qu'ils pourront donner plus d'attention à ces choses-là, mais c'est une remarque que je me suis faite et que je pense qu'il n'est pas totalement fausse, quoi.
Non, c'est très vrai, mais c'est vrai qu'en même temps, dans cette règle 3, il y a quand même un paramètre qui est celui de leurs moyens, et ils ont des moyens, pour ainsi dire, infinis. C'est-à-dire que, tu vois, je pense pas qu'il leur arrive souvent de dire « on va remettre ça dans 2 ans, parce que tu comprends, en termes de compta, là, on va être un peu ric-rac à la fin de l'année ». Non, ça n'existe pas. C'est-à-dire, c'est comme chez Amazon. Amazon, cette année, il y a un trimestre où ils ont fait vraiment des bénéfices, c'était étonnant, et parce que le réflexe chez Amazon, c'est plutôt de tout réinvestir dans plus de nouveaux services, embaucher comme des furieux, etc. Ils sont, je ne sais plus combien maintenant, ils sont 500, 600 000, enfin c'est de la folie furieuse. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être qu'il y a un changement de vie chez Amazon. Finalement, ils ont décidé que faire du bénéfice et le distribuer à ses actionnaires, c'est pas mal. Distribuer des dividendes, c'est peut-être une bonne idée. Et ben ça n'a pas duré. Hein. Le trimestre suivant, je pense que le lendemain de la publication des comptes, Jeff Bezos a convoqué tout le monde en disant, c'est bon, hein, allez, tous vos projets, c'est bon, on fait. Allez, on finance tout. Et le trimestre suivant, ça y est, ils ont affiché des bénéfices en baisse, même si leur business, forcément, est florissant. Mais Apple a plus quand même cette tendance à faire...
À choisir ce sur quoi ils travaillent, quoi.
Oui, et puis à s'inquiéter de ce qui reste en bénéfice à la fin du quarter et à la fin de l'année, parce qu'ils ont quand même, il y a beaucoup d'attentes de leurs investisseurs sur le dividende et le cours de l'action. Donc, mais c'est aussi pour ça qu'il y a des fois où ils se font un peu dépasser. Et je comprends qu'ils fassent des choix. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans le secret des dieux et on ne comprend pas les paramètres dans lesquels ils font leurs choix. Ou alors, quand on les comprend, on les comprend longtemps après. Donc là, voilà, il y a peut-être des choses qui expliquent qu'on nous dise que leurs lunettes, il va falloir attendre 2023.
Non, mais attends, au plus tard. Ça se trouve, ça sera un petit peu avant. Oui, enfin, selon The Information, là je parlais de Bloomberg, mais selon The Information, effectivement, le casque de réalité augmentée, c'est 2022, et les lunettes, c'est 2023. Donc oui, pour les lunettes, c'est pas pour tout de suite. Twitter a annoncé des nouveautés. Alors, c'est un produit qui bouge très très peu, Twitter, ou en tout cas, pas de manière radicale. Ils sont en train de lancer, aux États-Unis en tout cas, le nouveau produit qui s'appelle Twitter Topics. C'est-à-dire qu'il était en test il y a quelque temps, je crois qu'on l'avait évoqué. On a la possibilité sur Twitter de suivre non plus que des personnes, mais également des sujets. Il y en a plus de 300 de sujets qui ont été sélectionnés et qui vous permettent d'avoir dans votre timeline des informations qui ne sont pas forcément spécifiquement d'une personne que vous suivez ou d'une personne avec laquelle une personne que vous suivez a interagi, ce qui est déjà le cas
assez large,
aujourd'hui.
Assez large.
Voilà. Et donc, là, on peut choisir parmi 300 sujets. Alors, il y a beaucoup de sport, de jeux vidéo. Il n'y a pas de politique. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de politique, ils ont clarifié leur décision d'interdire les publicités politiques. C'est intéressant parce qu'il y avait des critiques qui avaient été faites vis-à-vis de cette décision, notamment sur le fait que certaines causes pourraient être réduites en visibilité. Eh bien, ils ont dit que leur interdiction ou leur ban s'appliquerait spécifiquement aux personnes et aux organisations spécifiquement politiques, mais les causes seraient incluses. Et ils donnent un exemple qui est on peut mettre des pubs sur le réchauffement climatique, donc faire de la pub pour éveiller les consciences sur le réchauffement climatique, mais Alexandra Anastasia Ocasio-Cortez, AOC, moi je la connais que par son acronyme, ne pourra pas faire de la pub pour son Green New Deal, qui est une initiative politique qu'elle essaye de mettre en place dans le Congrès américain pour justement réduire les émissions, etc. Donc, ça semble être ils prennent en compte les préoccupations. Ça me semble être plutôt une bonne chose. Je continue dans les réseaux sociaux et puis on va en parler. Instagram est en train de tester aux US le fait de ne pas afficher les likes le nombre de likes et le nombre de commentaires. Ils avaient déjà testé ça ailleurs, donc c'est toujours dans cette idée de réduire la dépendance à ce petit shot d'endorphine que nous provoque le fait de voir qu'on a eu 10 likes d'un coup sur une photo. Et je voulais mentionner aussi le fait que je me suis inscrit sur PixelFed. Alors, qu'est-ce que c'est que PixelFed ? Si vous connaissez Mastodon, vous connaissez peut-être PixelFed. Et si vous connaissez ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas un fan d'open source. PixelFed, en fait, c'est une version open source et fédérée d'Instagram. Et c'est intéressant parce que comme pour Mastodon, sur lequel je suis inscrit depuis longtemps, mais que j'utilise pas vraiment, on se rend compte que, et je vais peut-être me faire des ennemis là dans la communauté open source, mais ils réussissent très bien à faire des produits très poussés qui copient les fonctionnalités des services existants. Donc là, c'est un Instagram qui n'appartient pas à Facebook, ce qui a une immense valeur et ce qui est très bénéfique et très positif en soi. Mais vraiment, on est dans une version qui copie fonctionnalité par fonctionnalité ce qui existe ailleurs. Et j'ai un peu l'impression que c'est ce que fait de mieux la communauté open source. Alors, il y a des exemples éclatants de réussite, hein, là, on pourrait en discuter, mais évidemment qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien dans l'open source. Mais dans ces domaines-là, j'ai quand même l'impression que la valeur ajoutée qui est « ça n'appartient pas à une grande société », eh ben, elle est quand même pas assez séduisante pour le grand public. Peut-être malheureusement, diront certains, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans quelque chose de très innovant, quoi. Donc, bref, Twitter, Instagram, PixelFed, ton avis sur ces choses-là, Cédric, si tu en as un.
C'est chouette, PixelFed, voilà encore un truc sur lequel on va s'inscrire et pas vraiment aller. ah oui, je suis désolé, moi aussi, j'ai ouvert un compte sur Mastodon au début, et puis, mais en même temps, je suis comme toi, je suis un joiner, c'est-à-dire que tu vois, il y a un truc nouveau, vite, ouvre-moi.
Ouais, pareil. Ouais.
combien de réseaux sociaux, tu sais, à chaque fois, quand tu vois les papiers sortir, disant enfin un concurrent sérieux pour. Non, finalement, non. Mais sur Twitter, j'ai vu autre chose ce matin. Ils sont en train d'essayer de clarifier une sorte de politique ouverte et déterminée sur les deepfakes, parce qu'ils ont quand même peur d'être utilisés pour ce genre de choses. Mais en même temps, c'est pas parce que tu fais une vraie fausse vidéo que tes intentions sont maléfiques. Du coup, ils expliquent qu'en gros, ils vont faire en sorte de pouvoir les détecter ou permettre aux gens de les taguer en disant attends, ça c'est une fausse vidéo. Ne serait-ce que pour arriver à les taguer en temps réel quand tu la vois, que le système te dise cette vidéo n'est pas la vraie réalité vraie. Et en plus, permettre de... Alors attends, c'était quoi ? Oui, de t'avertir quand tu la partages. Quand tu la retweets, par exemple, en disant attention, tu es en train de partager une vidéo où tu vois, Donald Trump est en train de réciter une fable de La Fontaine. Tout ça n'est pas réaliste. Et... je trouve ça, si on était
ça me semble être une bonne solution, hein. C'est une solution mesurée, oui, parce que c'est vrai que une vidéo artificielle, on va dire, n'est pas forcément faite avec l'intention de tromper. Ça peut être un truc que tu fais pour que ça soit marrant, pour illustrer quelque chose.
Ça peut être totalement parodique, il y a plein de choses. Donc, mais ils ont ouvert les commentaires à leur communauté jusqu'à la fin du mois pour leur dire, voilà, en gros, ce qu'on entrevoit, mais si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas à vous exprimer. C'est vrai qu'ils ont une attitude un peu plus saine, hein, c'est pas compliqué, hein, que Facebook. J'ai beaucoup aimé parce que forcément, il n'y a jamais de hasard. Le jour et le moment qu'ils ont choisi pour annoncer qu'ils ne feraient plus de pub politique, ils l'ont fait, je crois, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure après le début de la conférence de résultats de Facebook. Donc évidemment, tout le monde a vu ça tomber en temps réel et a posé la question à Facebook, qui n'avait pas dû prévoir ça dans leurs notes, ce qui a donné lieu à des réponses, enfin, tu vois, des choses qu'on a vues. Je pense qu'il y a un problème, je ne sais pas, à un moment, il y a un problème de fond avec Facebook et qui n'est pas quelque chose qui va se régler, à mon avis, par la loi, par le démembrement. Enfin, ça, c'est des trucs sur le business pur et est-ce qu'il faut détacher WhatsApp, Instagram, Facebook, pourquoi pas, mais c'est pas ça la solution. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on a l'impression d'être face à une start-up, tu sais, à un moment où on dit bon, il serait peut-être temps de mettre un adulte aux commandes quand même, parce que voilà.
Et ce que tu dis, c'est que ce que tu dis, oui, c'est que ça ne peut se régler qu'avec un remplacement de la tête de Facebook, c'est-à-dire une sortie de Zuckerberg sous une forme ou une autre. J'aurais tendance à être d'accord. C'est lui qui est responsable.
En tout cas, moi, j'ai été frappé. Je me souviens plus dans laquelle de ses interventions publiques, est-ce qu'il répondait encore à des membres du Congrès ou quelque chose comme ça. Et non seulement, j'étais évidemment, je décodais à peu près en temps réel des trucs qui étaient assez langue de bois, mais à quoi s'attendre ? En fait, tu parles au patron d'une société cotée, donc il va pas non plus t'ouvrir son cœur, tu vois. Mais avec des réponses qui sont toujours, qui étaient un peu à côté, etc. Mais surtout. Et là, ça m'a étonné. Je n'aurais pas dit un truc pareil, mais j'ai trouvé qu'il n'avait pas le niveau intellectuel. Je me suis dit, mais il se rend compte de ce qu'il est en train de dire. Enfin, c'est pas possible. Il peut pas rester en pilote automatique sur des réponses comme ça. On voit bien les gens face à lui qui secouent la tête en disant non. Tu peux pas. J'ai dit, mais peut-être que finalement, il a plus le niveau. En tout cas, pour représenter l'entreprise. C'est une hypothèse. Peut-être qu'il avait un petit coup de mousse ce jour-là, ou qu'il n'avait pas préparé, etc. Parce que quand même, dans l'ensemble, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire. Il a quand même, à mon avis, un gros QI, mais il y a des trucs où il a... Je sais pas, où il va y avoir... Il y a des situations sociales qu'il a du mal à décoder, enfin, etc. Mais à un moment, tu
dis... Il y a beaucoup de gens qui disent qu'effectivement, il a une... Alors, clairement, c'est pas un idiot. Hein, je veux dire, il est... Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est
tout sauf bête.
Qu'il a un quotient émotionnel, enfin une compréhension des dynamiques sociales qui est pas suffisante, surtout pour quelqu'un qui dirige le plus gros réseau social du monde. Et ces choses dont on plaisante souvent avec l'idée que c'est un androïde, il est très froid, Alors, c'est sûr
comme
que...
un humain, boire un verre d'eau, et c'est ça. Non, mais ouais. Bien sûr, là, on se moque gentiment. Mais alors, il peut aussi arriver une chose. Hein. Là, on passe en revue des hypothèses qui sont peut-être fantaisistes, mais comme beaucoup de gens à cette échelle-là de responsabilité, il y a aussi une question d'entourage. C'est-à-dire que si tu es à ce niveau de puissance de travail et de responsabilité, si tu es entouré par des gens qui font oui, chef, bien sûr, non, c'est génial ce qu'on a fait, voilà, qui te disent pas la vérité, forcément, tu te retrouves en décalage complet par quand tu te retrouves propulsé dans le monde réel.
Je suis sûr qu'il y a un petit peu des deux. Il y a une question de culture dans la société qu'il est très difficile de changer. C'est ce qui a causé les problèmes de Uber pendant des années et des années. Et on voit aujourd'hui que doucement, l'image est en train de changer grâce à Dara, le nouveau CEO de Uber. Mais c'est passé par un changement de tête de la société parce que la culture d'entreprise, je crois, a besoin de ces symboles de changement si on veut changer la culture de l'entreprise, et ne peut effectivement être changé qu'avec une nouvelle tête. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution pour Facebook, mais il me semble, je suis en train de plus en plus de me ranger du côté que tu décris, c'est-à-dire que si on veut effectivement que Facebook change, je me demande s'il y a une autre alternative que l'idée de changer la tête de Facebook.
Bon. Voilà. Or, évidemment, Zuckerberg détient un pouvoir quasi absolu sur son entreprise. Donc, pour que ça marche, il faudrait, je ne sais pas.
Il faudrait que lui-même décide.
Il faudrait que ça vienne de lui, mais ça en prend le chemin. Mais là encore, on n'est pas dans le secret des dieux.
Non, bien sûr.
C'est pas grave.
C'est la spéculation.
Ça nous permet de papoter agréablement.
Mais disons qu'il ne me paraît pas impossible, si les choses continuent comme ça, qu'il se dise au bout d'un moment, je vais prendre un rôle qui sera une partie de ce que je fais jusqu'ici, de la même manière que l'a fait Bill Gates en se mettant en retrait un tout petit peu de Microsoft, qu'il était encore parmi... Mmh. Disons qu'il y avait deux têtes. Mais effectivement, Zuckerberg n'a pas l'air d'être le type de personne à faire ça, mais il est encore jeune et fougueux. Et puis surtout, malgré tout ce qu'on dit à ces niveaux, comme on le voyait la semaine dernière, la croissance est encore au rendez-vous pour Facebook, et les bénéfices aussi.
C'est ça.
Donc je pense que...
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le... La mauvaise réputation de Facebook croît à peu près au même rythme que son cours de bourse. Donc forcément, c'est-à-dire que normalement, quand les comptes vont mal, quand les trucs, etc., ça te donne plus vite l'occasion de te remettre en question. Là, forcément, tous les voyants sont au vert. Ils auraient tort, en tout cas pour des raisons de business pur. Même si on se dit à un moment quand même tout ça va taper dans un mur, soit réglementaire, soit de ras-le-bol, soit de renouvellement générationnel, où les jeunes générations diront « Ah, non, moi, je ne vais pas là, moi, ça ne m'intéresse pas », enfin, etc., etc. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut arriver à anticiper. Je ne fais pas de consulting en management pour Facebook, mais je serais eux, à un moment, je me poserais des questions. Il faudrait quand même à un moment qu'il y ait des changements qui soient autres que purement formels et qui puissent arriver à refermer la boîte de la machine à excuses. Genre, ah oui, flûte, ah non, on n'avait pas, ah pardon, ah oui, il y a ça, ah non, mais alors, ah là là, oui, on n'avait pas, alors, parce qu'à un moment, tu peux plus y croire. Et on est totalement.
La machine à excuses, c'est pas mal comme pour décrire Facebook.
Voilà, ouais. On finit totalement désensibilisé à tous les trucs successifs en disant ah oui, ah bah il y a le fichier de machin qui est parti dans web, ok, ah ils ont fait ça sans le dire à peu, ouais bah écoute, qu'est-ce que je te dise, c'est l'histoire du scorpion qui dit bah ouais moi je pique, qu'est-ce que je, voilà, donc à un moment il faudra que ça change, ou alors bah c'est nous qui changerons et on ira voir ailleurs.
Ouais, ça n'a pas l'air d'être le cas pour le moment, et même les jeunes, ils sont plutôt sur Instagram que sur Snapchat. Donc, pour le moment, ils gèrent bien les choses, Zucky.
C'est d'ailleurs pour ça qu'Instagram va devenir Instagram by Facebook.
By Facebook, tout à fait, avec le beau logo multicolore. Bah écoutez, je vais conclure avec un sujet un petit peu différent. Je vais vous parler de pornographie. Et oui, on est tout à fait adulte dans le rendez-vous, dans le rendez-vous tech. Mais il y avait un papier intéressant qui a été publié sur One Zero, qui est une publication sur Medium, par Lux Alptrom. Voilà, j'espère que j'écorche pas son nom, qui est peut-être un pseudo d'ailleurs. Attends, je vais vérifier l'article parce que je suis pas tout à fait sûr. Oui, oui, je pense que c'est le pseudo de la dame, ou alors peut-être son nom. Bref, un papier vraiment intéressant qui a été publié un petit peu au même temps qu'un papier sur le New York Times. En même temps que le New York Times rappelle à quel point les grandes sociétés de la tech n'ont pas réussi à gérer les questions de pédopornographie de manière suffisamment rapide, et n'ont pas en tout cas de standards communs entre eux pour partager les informations sur ces éléments dangereux ou illégaux, eh bien l'industrie de la pornographie et de la pornographie en ligne a effectivement réussi, elle, à complètement échapper aux régulations très strictes et aux règles qui la dirige, alors qu'ils sont en grande partie basés sur la gestion de contenu et la génération de contenu par leurs utilisateurs. Ils donnent un exemple d'un site qui a implémenté donc des systèmes de vérification. Ils ont environ 7000 vidéos par jour qui sont uploadées. Et il y a, d'après leurs équipes de modération, une vidéo sur 20 000 seulement qui est bloquée. Et là où c'est intéressant, c'est que les régulations étant très très fortes, d'une part, ils se feraient choper s'il y avait des problèmes, et d'autre part, l'analyse de Lux est que la régulation n'a pas ralenti le rythme de l'innovation. C'est quelque chose qui est effectivement présent dans le domaine de la pornographie, qui fait avancer ce qu'elle fait au niveau technologique depuis des décennies. Mais ça a simplement... Alors, la contrepartie, c'est que le contenu n'est pas publié immédiatement, mais il y a un mélange entre détection automatique et revue par des employés pour s'assurer que le contenu est bien acceptable, etc. Et donc, cette législation sévère n'a pas ralenti l'innovation, mais a permis, avec des contreparties minimes, de limiter et même d'éliminer les contraventions à la loi et les problématiques qui pourraient être posées. Alors évidemment, même si l'industrie du porno est énorme, on imagine que ce n'est pas une ampleur qui est comparable à celle des réseaux sociaux comme Facebook ou comme Instagram ou comme Twitter, mais il n'empêche, je crois qu'il y a un élément de réflexion intéressant là-dedans, qui est que ces régulations hyper sévères qu'on craint comme la peste dans le domaine de la tech, dans cette expérience en temps réel n'a pas semblé avoir des conséquences drastiques sur l'industrie. Donc, c'est quelque chose à noter, quoi.
Je pense qu'il y a deux aspects. D'abord, le fait qu'eux le savent. Hein. C'est-à-dire que s'ils sortent des clous de manière visible, ils seront face à un danger mortel, en gros.
Oui, c'est exactement ça.
Voilà, les Anglais avaient voulu tester un système. Les Australiens aussi sont en train d'essayer de.
Ouais, les Anglais ont annulé, les Australiens ont repris le flambeau. Ouais. C'est un système qui
voilà.
Qui prendrait ta photo pour vérifier ton âge. Voilà. C'est ça, pour vérifier l'âge.
En gros, t'envoies ta pièce d'identité, on vérifie que c'est bientôt, enfin, etc. Le truc, t'imagines. Mais bien sûr. Et du coup, évidemment, ils veulent tous éviter ça. Et puis, de l'autre côté, je pense qu'ils ont aussi un atout qui est un truc d'usage, c'est que il y a moins de personnes qui envoient du contenu qu'il n'y a d'utilisateurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'es Facebook et que t'as 2 milliards d'utilisateurs, c'est 2 milliards de personnes qui sont susceptibles de poster du contenu. Je sais pas combien d'utilisateurs ont les grandes plateformes de porno en ligne, mais elles doivent en avoir cumulativement à peu près le même nombre. Mais par contre, il n'y a pas 2 milliards de personnes qui envoient des clips. Donc forcément, ils ont, on va dire que le robinet à contenu est moins, à moins ce côté lance à incendie. Où tu vois, c'est des dizaines, des centaines de millions de photos, de machins, etc. chaque heure qui passe. Donc forcément, c'est un peu plus facile à filtrer. Peut-être aussi parce qu'ils recherchent des choses qui sont un peu plus circonscrites. Mais de fait, je pense qu'eux ont investi.
Oui, j'imagine, quand tu dis des choses qui sont plus circonscrites, par exemple, on peut imaginer que la diffusion d'images d'enfants, dès qu'on détecte un enfant dans la vidéo, voilà, c'est terminé, il n'y a pas de question. C'est pas que c'est une photo de tes enfants en vacances, c'est que s'il y a un enfant, directement, c'est non. Donc, c'est plus facile à détecter.
Et en plus, ils sont. Et en plus, il faut être juste avec Facebook et les autres. C'est-à-dire que si tu es une de ces plateformes de vidéo X, les zones grises sont à la fois moins nombreuses et sujettes à moins de conséquences. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir une grande campagne pour t'accuser de censure parce que tu as choisi de retirer telle ou telle vidéo. Enfin, c'est-à-dire que tu ne touches pas immédiatement au cœur du centre de la liberté d'expression de tout un chacun. Donc, même si tu as des effets de bord et où ton algorithme va mettre de côté des vidéos qui finalement auraient dû passer, bon, ce n'est pas très grave dans l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne va t'accuser de jouer à Big Brother, etc. Donc forcément, ils évoluent dans un contexte qui est finalement un petit peu plus facile à négocier, à la fois socialement, technologiquement, en termes de business, etc. Mais oui, je pense que ce que je disais au début, c'est qu'eux ont compris très très vite qu'ils étaient face à un vrai danger mortel. Là, pour le coup.
Tout à fait, ouais. Disons que sans aller jusque-là, peut-être qu'il pourrait y avoir une leçon à tirer de tout ça, qui serait de se dire que si on montait un petit peu le robinet du danger sans l'amener jusqu'au niveau mortel, ça pourrait être intéressant de voir les conséquences sur certains de ces réseaux sociaux. Au lieu de se dire ce qu'ils nous disent eux, et qui est la compréhensible aussi, hein, ça serait un coup d'arrêt à l'innovation et donc un danger industriel fort. Peut-être qu'on est arrivé à un niveau où il faudrait commencer à tenter de voir ce que ça donnerait, quoi. Mais en même temps, c'est un robinet qu'il est difficile de refermer quand on l'a ouvert, donc je comprends les hésitations, quoi. Mais bon, je pensais que c'était un sujet qui était intéressant à ajouter à nos réflexions sur ces sujets. Écoute, Cédric, on arrive au bout de l'épisode. Merci beaucoup de m'avoir accompagné.
Pas déjà ?
Mais oui,
c'est toujours un plaisir.
Cette heure est passée tellement vite, et si certains de nos auditeurs pensent la même chose et qu'ils en veulent plus, ils veulent plus de Monsieur Ingrand, où est-ce qu'ils peuvent se diriger ?
Venez déjeuner à la maison. Enfin, je veux dire, pardon, sur Twitter, @Cédric, sur LCI, sur LCI.fr et particulièrement sur LCI dans la matinale week-end du samedi, 7h47 si vous êtes vraiment matinale, et 9h45 si vous attendez l'heure des croissants.
Voilà. Moi, je suis plutôt team croissant, on va dire. Pour ma part, c'est Note
Patrick. Nombreux, hein.
Oui, je crois que je suis pas le seul. Je suis Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. N'hésitez pas à venir commenter si vous avez des choses à dire sur tous les sujets qu'on a évoqués. Et bien sûr, si vous appréciez l'émission, vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Si vous vous dites depuis quelques semaines, quelques mois, ah ouais, faudrait que je le fasse, faudrait que je m'inscrive sur Patreon, et ben c'est le moment. Vous avez mets le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez le faire tout de suite maintenant, pendant que l'émission est en train de se terminer. Ça prend 2 minutes, montre en main. Vraiment, c'est hyper rapide, hyper facile. Et non seulement vous pourrez être fier de soutenir l'émission et la qualité qu'on vous propose, j'espère en tout cas, mais en plus, vous aurez droit à des bonus sympathiques. Allez voir ça sur patreon.com/rdvtech. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.